Amen. Que notre Dieu soit béni. Oui, comme le disait un frère tout à l'heure, quelle grâce d'être bien dans sa maison. Vous êtes bien dans la maison du Seigneur? Vous êtes heureux. Mais nous voulons aller plus loin. Nous allons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 2, cette merveilleuse histoire. Et je peux vous dire que Dieu veut la renouveler spirituellement. Jean, chapitre 2, verset 1er. Ces gens-là ne savaient pas qu'ils allaient assister à la première des grandes choses que Jésus allait faire en venant sur la terre. Jean chapitre 2, verset 1er. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent ?» Tel fut, à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Amen. Quelle grâce. Vous l'avez lu combien de fois cette histoire? Je voudrais que ce soir, on la relise ou on la lise comme si c'était vraiment la première fois. Jésus a fait un premier miracle. Est-ce que vous aimeriez que Jésus fasse un re-premier miracle dans votre vie? Est-ce que Dieu peut faire quelque chose de nouveau dans notre vie? Vous avez vu comment Jésus parle à sa mère? Sa mère et Jésus, donc, avaient été invités. C'est ça la solution. La solution, c'est que Jésus soit toujours là. Pas pendant une réunion où nous nous réjouissons, mais tout à l'heure, est-ce que Jésus sera toujours l'invité dans notre maison? Est-ce que tout à l'heure, dans votre voiture, dans votre chambre, est-ce que, je ne sais pas, demain matin, est-ce que vous pourrez dire, mais oui, Jésus, c'est toujours l'invité. Il est toujours là dans ma maison. Il est toujours là dans mon âme, toujours dans mon cœur. Voilà la clé d'un premier miracle, d'un second miracle, d'un énième miracle, d'une expérience, parce que voilà, il y avait un manque. Le vin y a manqué. C'est vrai qu'on peut lire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, mais il n'empêche que la vie fait que il peut arriver que nous manquions de certaines choses. Oui ou non? C'est normal. C'est normal, ça peut arriver toutes les semaines, dans le mois, à la fin du mois. Est-ce que quelqu'un peut dire, ah, il me manque 50 euros pour finir la fin du mois? Est-ce que ça peut arriver à quelqu'un? Ben oui. Et pourtant, on peut dire avec assurance, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et c'est là qu'il faut dire, mais Seigneur, vous savez, la prédication ce soir, elle ne sera pas très longue. Mais je voudrais que nous puissions comprendre une parole de ce texte. Jésus était dans une précision par rapport à la volonté de Dieu. C'est hallucinant presque. Vous rendez compte, il dit à sa mère, « Mon heure n'est pas encore revenue. » Donc, ce n'était pas le moment. Et pourtant, quelques minutes après, il était vraiment au tip-top de la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez la pensée? Je ne sais pas si vous réalisez. « Mon heure n'est pas encore venue. » Et pourtant, combien? Peut-être 5 minutes après, 10 minutes après, C'est l'heure. Comme quoi le Seigneur Jésus était d'une sensibilité à la pensée du Père. Et c'est une chose que nous pouvons découvrir, à nous peut-être les responsables, un peu plus que les autres. Mais peut-être que mon heure n'est pas encore venue ce soir, là. Mais peut-être que tout à l'heure, certaines choses seront d'ordre, à l'ordre du jour, et devront être faites. Et Marie, qui avait été invitée, c'était certainement la famille. On ne peut qu'en déduire que c'était un mariage, quelqu'un de la famille de Jésus, de sa mère. Ils avaient été invités. Ils ont bien fait de l'inviter. C'est merveilleux d'inviter Jésus. Vous savez, ce texte, on l'utilise presque comme mariage. Et au mariage, on utilise ce texte pour montrer que c'est super d'inviter Jésus. Mais je pense que ça va un peu plus loin qu'à une bénédiction nuptiale. Je crois que ça devrait nous interpeller. Et vous avez vu la parole de Marie, qui, je le crois, est pour quelqu'un ce soir. Certainement pour tous, mais peut-être pour quelqu'un de manière particulière. Vous avez vu ce que Marie va dire aux serviteurs. Je suis convaincu que quelqu'un ce soir a besoin de retrouver cette affaire. Marie, qui est consciente, quand même, elle sait très bien, même si après on voit qu'il y a eu des moments de doute, de combat, Marie a été visitée par l'ange Gabriel. Elle sait qui elle a porté. Vous connaissez quand même. On l'a lu à l'introduction tout à l'heure, quand l'ange Gabriel lui a dit mais tu connais pas d'homme. Mais c'est le Saint-Esprit qui te donnera un enfant. Car rien n'est impossible à Dieu. Vous le croyez, ça? Franchement, bon, c'est où? Tout le monde peut le citer presque par cœur. C'est où? Luc 1, 35, c'est ça? Je crois que c'est Luc 1, 35. Car rien n'est impossible à Dieu. Ce verset, je l'ai déjà présenté. Il est dans la tête ou il est dans le cœur. S'il est dans le cœur, quelle grâce! Moi, il fait partie des centaines de versets que j'ai appris par cœur, mais vous pouvez me poser la question. En tous les cas, Dieu pourrait me la poser. Il est dans ta tête, ce verset, ou il est dans ton cœur? Parce que s'il est dans la tête, ça ne sert à rien. C'est bien pour ma connaissance, pour mon plaisir personnel. Mais est-ce que vous vous rendez compte si ce verset, il est dans mon cœur? Rien n'est impossible à Dieu. Ou ailleurs, tout est possible à celui qui croit. Et il y a un moment donné où il nous faut ce nouveau miracle, ce re-premier miracle. Il faut qu'il se passe quelque chose. Mais voilà, même si c'est le Seigneur qui fait le miracle, il y a toujours, et je l'ai dit, chaque fois qu'il y a un miracle, il y a la participation de l'homme. Est-ce que Jésus... Sincèrement, est-ce que Jésus aurait pu mettre le vin, hop, dans les vases d'un coup, sans rien? Je vous rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, qu'il a créé les cieux et la terre à partir de rien. Oui ou non? Est-ce que c'est lui qui a tout créé? Est-ce que c'est écrit dans la Bible que par lui tout a été créé? Donc, je me doute pas que le Seigneur aurait pu, par sa puissance, mettre directement du vin dans ses jarres. Mais mes frères et sœurs, chaque fois qu'il y a un miracle, même si c'est la résurrection de Lazare, n'importe quel miracle, vous l'avez remarqué, il y a toujours la participation de l'homme. Lorsque Jésus a ressuscité Lazare, qu'est-ce qu'il avait demandé à Marthe et à Marie ? Ôter la pierre. Est-ce que franchement Jésus pouvait faire rouler la pierre? Est-ce que Jésus aurait pu parler à la pierre? Est-ce que Jésus a déjà parlé à des éléments? Ben oui. Jésus pouvait rouler la pierre en même temps que Lazare. Oui ou non? Mais il nous fait participer. Et je crois que nous avons perdu cette affaire de foi simple. Il a dit rouler la pierre. Peut-être que l'homme, ce n'est pas elle qui l'ont fait. Elles étaient peut-être même physiquement trop faibles. Mais ils ont demandé à des amis qui étaient là, est-ce que vous roulez la pierre? Ils se sont mis à deux, à trois, à quatre, je ne sais pas. Moi, je pense que c'était une très très grosse pierre. Qu'importe. Mais elles l'ont fait faire. Et là, dans ce miracle, il y a une parole qui est la clé du miracle. Faites ce qu'il vous dira. Et là, ça nous responsabilise. Ça nous implique à chacun. Tiens, mais qu'est-ce que le Seigneur me demande en ce moment? Peut-être que vous êtes à mille lieues. Mais Seigneur, réapprends-moi à écouter, comme on l'a chanté, comme la prophétie le rappelait. Réapprends-moi à faire silence. Il y a trop de bruit, il y a trop de choses, il y a trop de choses autour de moi qui m'empêchent d'entendre ta voix. Mes frères et sœurs, si nous voulons, si tu veux un nouveau miracle, parce que c'est quand même extraordinaire cette affaire, parce que le miracle, il y est là, c'est sûr, on le sait. Mais, voyez, mon heure n'est pas venue, quelques minutes après, c'était l'heure. Peut-être vous dites, mais mon temps n'est pas venu. Oui, mais peut-être que demain. Demain, ça vaudra la peine que tu sois prêt. Ce soir, tout à l'heure, mais peut-être plutôt que de te mettre devant Facebook pour voir si tes amis t'ont pas envoyé un message. Peut-être qu'il y a un grand ami, qui, en tous les cas, qui voudrait devenir, qui a un message à te donner et que tu ne peux pas entendre. C'est peut-être pas l'heure maintenant, mais ça sera l'heure peut-être à 10h15. Où Dieu va te dire, couche-toi, que demain matin à 6h je puisse te parler. Parce qu'il y a combien de gens ici qui me disent, monsieur Gaumont, le culte le matin je ne peux pas le faire, je me couche à minuit, le matin je me lève à la bourre pour aller au boulot. Mais voilà, comment le Seigneur peut-il parler à quelqu'un si on n'a pas cette grâce de pouvoir passer une heure avec lui? C'est écrit ça, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi? Faites ce qu'il vous dira. Fais ce qu'il te dit, mon frère. Fais ce qu'il te dit, ma sœur. Et si tu ne l'entends pas, recherche sa présence, afin que tu puisses dire, mais c'est quoi que Dieu me demande en ce moment? C'est quoi que Dieu me demande? Fais-le. Voilà, c'était pas compliqué. Vous avez vu l'ordonnateur du repas? Est-ce qu'il était au courant, l'ordonnateur? L'ordonnateur, l'organisateur, le coordinateur. Aujourd'hui, comment on dit les gens qui coordonnent des mariages? Ceux qui s'occupent des mariages, comment on les appelle? Le coordinateur. Il n'était pas au courant. C'était lui qui était chargé d'organiser le mariage, tout. Et il n'était pas au courant. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'était pas à côté de Jésus. Il est passé à côté. Celui qui aurait dû être le plus informé, il n'était pas là. Mais bien sûr, mais ce n'est pas un reproche. Il était certainement affairé à autre chose. Il s'occupait des dragées ou des gâteaux. Mais il n'était pas là. C'est pour ça qu'il a dit, mais comment ça se passe? Tu as servi le mauvais, maintenant tu sers le bon? Tandis que les serviteurs, eux, c'est écrit. Les serviteurs, eux, ils le savaient. On le relit ce verset, parce que bon, on l'a lu cette histoire, mais verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau, le savaient bien. Alléluia, ils le savaient. Ils le savaient, ils l'ont vu, ils étaient là, à côté. L'autre jour, je parlais de ces deux serviteurs qui ont fait quelque chose de super simple. Jésus leur a dit, voilà, vous allez dans la rue là-bas et vous détachez l'anneau. Et si on vous demande quelque chose, vous dites tout simplement, le Seigneur en a besoin. Et ils l'ont fait. Et voilà, faites ce qu'il vous dira. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à côté de lui. Jésus a pris les deux proches à côté de lui. Il n'a pas pris quelqu'un qui était à 5 kilomètres. Et la proximité du Seigneur, quand même, est révélatrice. Je suis à côté de lui. C'est bien de chanter ces beaux cantiques, mon cœur voudrait t'aimer. Mais en réalité, est-ce que j'entends ce qu'il va me dire? Quelque chose que je peux faire. Tout ce que Jésus demande, moi je n'ai jamais vu Dieu dans la parole demander quelque chose qu'on ne pouvait pas faire. Jamais. Chaque fois que le Seigneur, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, demande quelque chose à n'importe qui, c'est tout le temps quelque chose de réalisable. Facilement. La chose peut-être qui était plus difficile, c'est quand Jésus a dit à Pierre, viens, puisque Pierre avait eu le réflexe, l'audace, j'en sais rien, de dire, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Moi, je n'aurais jamais pensé un truc pareil. Mais Pierre y a pensé. Jésus a dit, viens. Là, mais si Jésus dit « viens », tu peux y aller. Mais bon, c'était déjà qu'un peu de doute, c'est normal. Mais dans tout le reste, vous savez, tout à l'heure, aujourd'hui j'ai eu deux pensées. Cette pensée et une autre pensée dans l'Ancien Testament où on voit où on voit Ézéchias qui va être confronté à un grand problème. Pourtant, il obéit. Vraiment, Ézéchias, à la fin, il y a eu un truc qui n'allait pas. Mais dès qu'il a obtenu la royauté, c'est un homme qui a voulu obéir à Dieu. Il a voulu obéir à Dieu, il a vraiment fait ce qu'il fallait. On pourrait y aller. Attendez, c'est dans Ésaïe. Il y a deux textes, mais il y en a un dans Ésaïe. Je l'ai marqué, il me semble, 37. Dans Ésaïe 37, on voit cette affaire. C'est une drôle d'affaire. C'est pour vous indiquer que faites ce qu'il vous dira. Il faut être sensible. Faites sensible. Faites ce qu'il vous dira. Ce roi, comment il s'appelait, il y avait Rabshakeh, il y avait Sanchérib. Ils étaient deux. C'est un roi d'Assyrie qui a commencé à détruire toutes les nations. Ésaïe 37, 36. On va lire le verset 31. Regardez. La 14e année du roi d'Ézéchias. Si vous lisez dans les chroniques, vous allez voir, il obéissait. C'était un moment où. C'est pour vous dire que même si on obéit, on peut traverser des moments difficiles. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. C'est pas compliqué. Toutes. Donc, vous connaissez cette histoire. Sanchérib va faire dire au roi d'Israël qu'il va détruire la ville. Bien sûr, verset 37, chapitre 37. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, et qu'est-ce qu'il fait ? Il alla dans la maison de l'Éternel. Vous voyez ? Il va, il fait ce qu'il doit faire. C'est le roi, c'est grave. Vous voyez au verset 3, il lui dit, ainsi parle Ézéchiel, Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, etc. Mais, verset 6, Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie pas des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. C'est Dieu qui parle. Verset 9. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. J'ai pris ce verset exprès pour vous rappeler qu'il y en a un qui est toujours en marche pour faire la guerre, pour nous faire la guerre. J'exagère ? Il y a toujours des combats, plus ou moins grands. Faites ce qu'il vous dira. Regardez au verset 14, c'est ça qui nous intéresse en vérité. Qu'est-ce que fait ? C'est archi compliqué, si on l'a lu, c'est un jour d'angoisse, c'est difficile. Regardez qu'est-ce que fait Ézéchias. Ézéchias, il avait été, je le répète, dans la maison du Seigneur, il y retourne. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, cette lettre d'insulte. Qu'est-ce qu'il fait ? Il l'a lue, puis de nouveau, enfin c'est pas écrit de nouveau, mais enfin c'est clair, il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. À qui il adressa cette prière, vous pourrez la lire. Il parle à Dieu, il va, il fait ce qu'il doit faire, il fait ce que Dieu lui demande. Il a été une première fois dans la maison de Dieu, il a reçu une parole. Il y a un combat qui se poursuit, c'est normal. Il retourne à la maison du Seigneur, il prend la lettre qu'il a reçue, et il la déploie devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, t'as vu le courrier que j'ai reçu ? Verset 21. Alors Ésaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Israël, et je vous assure que ça ne va pas être terrible, ça ne va pas être facile pour le roi d'Assyrie. Et regardez bien la conclusion, verset 36. Regardez quand même. L'ange de l'Éternel sortit, là où était le camp de Sanchérib, et frappa dans le camp des Assyriens, regardez bien combien il avait de soldats, 185 000 hommes. Je ne sais pas si vous réalisez, un ange. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est terrible ça. 185 000 hommes, je ne sais pas si à Toulouse il y a 185 000 hommes. On est presque, mais ça m'étonnerait qu'ils y soient. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il se lève le matin, tous ses soldats sont morts. Parti et s'en retournant, il resta à Ninive, à Mossoul, c'est pareil. Et comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charester, ses fils, le frappèrent par l'épée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Vous avez vu que, vous savez, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, on le récolte. Cette histoire, elle nous montre une chose. À Dieu, rien n'est impossible. Il n'est pas dit de 100 000 anges sont sortis. Un ange. Et il n'a pas tué tout le monde. Il a tué juste tous les soldats, sauf le roi et deux de ses gardes du corps, sûrement. Il a fait ce qu'il fallait qu'il fasse. Il a été dans la maison du Seigneur. Il a pris la lettre. Et il a dit, Seigneur, tu vois le courrier que j'ai reçu. S'il te plaît. Il obéissait, il avait cette confiance. C'est bien d'aller dans la maison du Seigneur, mais la maison du Seigneur, ce n'est pas que l'église. La maison du Seigneur, c'est peut-être ta chambre tout à l'heure. Oui, non. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Est-ce que ce n'est pas notre petite église, notre chambre? Est-ce que notre corps n'est pas le temple du Saint-Esprit? Mais Seigneur, je veux que ma maison, que mon cœur, que mon corps soit le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Faites ce qu'il vous dira. Fais ce qu'il te dit. Si on veut voir un nouveau miracle, je dois savoir ce que Dieu me demande. Ce n'est pas à moi de vous dire, fais ci et fais ça, de ne pas demander pardon, tu t'es disputé avec... Mais pas demander. Bien sûr que ça peut se présenter. Si vous me dites, je suis fâché avec ma mère, ben je vais vous dire, allez vous réconcilier avec elle. Oui ou non? C'est normal. Il y a des choses, c'est évident, mais il y a des choses, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour cela qu'il faut savoir, c'est l'heure de Dieu. Il y a des moments, voilà, mon heure n'est pas venue. La mère, elle aurait pu dire, mais qu'est-ce que tu me dis à ces minutes, tu me dis que ce n'est pas ton heure, hein? Maintenant, tu demandes de remplir les vases? Non, non, non. Il ne faut pas être dans le conflit avec Dieu. Si ce n'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Si 5 minutes après, c'est le moment, eh bien, je le fais. Seigneur, c'est l'heure. C'est l'heure de mon premier miracle. De mon prochain miracle. Moi, je crois que le Seigneur, il est capable de faire des choses merveilleuses. Vous savez, changer l'eau en vin en si peu de temps. La nature, elle le fait. La nature, elle le fait. Le raisin qui pousse, qui est arrosé, qui passe par le cep, etc. Mais ça prend un an. Le Seigneur, il peut le faire en quelques secondes. Quel bonheur. Vous comprenez l'enseignement? Le Seigneur a un peu de temps. Tu peux faire quelque chose de bon dans ma vie. Il n'y a pas besoin d'attendre 3 ans. C'est vrai qu'il y a des choses... Il faut du temps pour apprendre la patience. Combien de temps il faut pour apprendre la patience? Allez, dites-moi. Non, mais toute la vie, oui, c'est vrai. Mais quand même, il y a des choses, on les apprend. Il faut des années, oui ou non? Il y a, franchement, la patience, moi, je trouve que ça prend du temps. Oui ou non? Soyons honnêtes. Il y a des choses, il y a des vertus où Dieu permet qu'il faut du temps, vraiment. Il faut du temps. Moïse, il a mis que 40 ans à apprendre à servir Dieu. Vous voyez, il a mis que 40 ans. Mais enfin bon, il y a des choses, il faut du temps. Mais il y en a, elles sont instantanées. Et ce premier miracle, il nous rappelle vraiment, oui, que tout est possible à Dieu. Vous savez, Sanchérib, vous regarderez ces propos-là et dans les chroniques, vous verrez combien c'est tombé plein d'arrogance envers Dieu. Vous savez, on ne se moque pas de Dieu. Est-ce qu'il a bien fait, Ézéchias, d'aller dans la maison du Seigneur? Vous voyez, mais ma sœur, va dans ta maison tout à l'heure et répands ton cœur devant Dieu. Ça prendra 2 minutes, moi je ne sais rien, moi je ne suis pas dans ce calcul-là, il est pas intéressant. Mais il y a une vraie réflexion. Mais Seigneur, j'ai besoin, le temps qu'il faut. J'ai peut-être besoin de rester 5 minutes, peut-être un quart d'heure. Moi, ça m'est arrivé pour des problèmes graves, mais graves, de prendre 30 secondes, d'aller dans mon bureau, de me mettre à genoux, de prier 5 secondes. Seigneur, je te remets ce problème. Voilà. Et je me suis relevé. Des trucs graves. Et Dieu a agi. J'ai prié 5 secondes. Ça m'est arrivé, je pense que ça vous est déjà arrivé, d'avoir besoin de rester 1 heure dans sa présence, 2 heures. Oui ou non? Mais soyons vrais. Faites ce qu'il vous dira. Et les serviteurs, ils l'ont fait. Que Dieu soit béni. Seigneur, mon vase, tiens, mais mon vase, c'est quoi le vase de remplir d'eau à fond? Eh bien, est-ce que Dieu ne compare pas nos vies à des vases? Est-ce que ça ne sous-entend pas qu'il faudrait que je remplisse ma vie de sa parole, de l'eau de sa parole? Est-ce que je ne devrais pas tout à nouveau, tiens, reprendre les évangiles et, Seigneur, mais oui, je le crois que rien n'est impossible à Dieu. Oui, je l'ai appris, il nous encourage à prendre des versets. Je le sais, c'est Luc 1,35, c'est ça? Luc 1,35, mais il faut que ça descende. Je veux que ce soit là. Vous vous rappelez quand je vous avais parlé, et je termine avec Marie, parce qu'elle est concernée par cette affaire. Vous vous rappelez, il y a quelques mois de ça, je vous avais parlé de Marie. Pourquoi Dieu a choisi Marie? Il y en avait des jeunes filles en Israël, oui ou non? Il y en avait beaucoup? Ben ouais, il y en avait des milliers. Des jeunes filles, je ne sais pas quel âge j'avais, 20 ans. Mais vous avez remarqué, quand il a fallu qu'elle accouche, elle habitait où, Marie? Elle habitait où? À Nazareth. Et il fallait que Jésus naisse à Bethléem. Voilà. Le prophète Michée avait prophétisé que Jésus naîtrait à Bethléem. C'est écrit. Et Marie, elle habitait à Nazareth, 160 kilomètres plus haut. Et quand le recensement a été ordonné par César Auguste à Rome, parce que comme rien n'est impossible à Dieu, Dieu a réveillé cet homme peut-être une nuit, il lui a dit voilà, tu fais. Il a pensé, en tous les cas, il a ordonné un recensement. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les gens aillent se faire recenser dans la ville d'où ils étaient natifs. Donc, Marie et Joseph sont partis à Bethléem. Elle était à combien d'accoucher, Marie? Elle était à combien? 160 kilomètres? À pied? Je pense qu'ils avaient un âne. Ou à deux ânes. Mais une femme enceinte qui va accoucher, il faut quand même. Il ne faut pas faire du trot ou du galop. Je pose la question, combien de femmes aujourd'hui, à deux ou trois jours d'accoucher, le feraient? Sérieusement? Est-ce que vous me suivez? Elle aurait pu dire à Joseph, attends, mais Joseph, non, mais tu plaisantes? Tu plaisantes? Je ne vais pas faire 160 bornes? À Dodane? Écoutez-moi, fais-moi un papier. Voilà. Il fallait que Jésus naisse à Bethléem. Et moi, je vais vous dire, et c'est vrai, je sais que c'est vrai, si Dieu a choisi Marie, c'est parce qu'il savait qu'elle obéirait. Voilà pourquoi. Parce que moi, souvent, je me suis posé la question et j'ai demandé à Dieu qui m'éclaire. Mais pourquoi tu as choisi tel homme, telle femme? Pourquoi? Ben, c'est pas compliqué. C'est toujours pareil. C'est parce que la personne, elle obéit. Et Marie, elle a obéi. Elle a fait 160 kilomètres de Nazareth à Bethléem. Certainement, je ne sais pas combien de jours ça a pris, mais en tous les cas, elle a obéi. Et quand on obéit, ça se termine à l'heure que Dieu veut. Mon heure, elle est peut-être venue ce soir. Ton heure. J'ai perdu du temps, je le confesse. J'ai perdu du temps, oui, la patience que j'aurais dû apprendre en 10 ans ou en 20 ans, parce que je crois quand même qu'il y a cette notion de temps, Dieu il sait. Tu vois, Seigneur, en 30 ans, je ne l'ai pas apprise. Oui, pardon. Mais tu vas me demander quelque chose, je vais le faire. Même si c'est de présenter un simple courrier. Oui ou non? On pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il avait? Il n'avait pas besoin d'aller au temple, il pouvait le faire chez lui. Oui, je ne sais pas, moi, je ne sais pas qui je suis. Mais il a fait ce qu'il avait à faire. Et Dieu l'a béni. C'est Dieu qui a. C'est Jésus, je ne sais pas si vous réalisez ces vases, mais parce que. Est-ce que vous réalisez? Ces serviteurs, ils étaient là, ils ont fait. Marie a dit, remplissez d'eau, ils ont pris de l'eau, je ne sais pas combien. S'il y avait la fontaine à côté, s'il y avait l'eau courante. Ils l'ont fait. Ça a pris 5 minutes, ça a pris demi-heure, j'en sais rien. Jésus avait dit, remplissez d'eau, il fallait remplir dans les vases. Alors Seigneur, tu vois ce que tu me demandes? Je vais le faire. Pas à moitié, en entier. Je ne vais pas remplir ma vie à moitié, je vais la remplir entièrement. Le reste, je crois qu'il va le faire. Vous le croyez? Il le fera. Il ne peut pas mentir. Tel fut à Cana, le premier miracle. Il y a une sœur qui avait été en Israël il y a quelques années de ça. Elle m'avait ramené du vin de Cana. Cana. Je l'ai goûté, il n'était pas bon en plus. Il était vraiment pas bon. Mais j'étais content de boire du vin de Cana. On a du vin meilleur ici. Enfin, ça, c'est pour la petite histoire. Mais c'est pour vous dire que Jésus fait des miracles encore. Vous le croyez? Est-ce que vous croyez aux miracles? Est-ce que vous y croyez toujours? Est-ce que les miracles, c'était pour le début de l'histoire de l'Église? Il fallait quelque chose, quoi. Pour démarrer l'histoire de l'Église, il fallait un peu de fun, quoi. Mes frères et sœurs, le Seigneur, il a fait un premier miracle. Il y en aura un dernier. Le dernier, ça sera l'enlèvement de l'Église, les noces de l'agneau. Parce qu'il y a des boucles dans l'histoire. Mais mes frères et sœurs, entre-temps, le Seigneur, il peut en faire un deuxième, et un troisième, et un quatrième, et un centième, et un millième. Oui ou non? Mais mon frère, ma sœur, ayons cette sensibilité, si son heure est là, si son heure est venue, si l'heure est venue, si le Seigneur est là, il dit, non, maintenant oui. Fais ce que je te demande, fais-le. Là, tu vas demander à Nicolas quelque chose, à Monsieur de Dieu autre chose, à Lucas autre chose, à Jonathan autre chose, à Monsieur Grondet autre chose, à Julie autre chose, et ainsi de suite. Je crois que ce n'est pas à nous, mais je le répète, mon frère, fais ce que le Seigneur te demande, fais-le, et tu verras le miracle. D'ailleurs, Jésus l'a dit à Marthe, si tu crois, si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. On va lui demander de l'aide. Vous voulez bien qu'on lui demande de l'aide, hein? Tout simplement. On se recueille, et peut-être on va reprendre cette histoire à la maison. Si l'heure est venue, ça vaut la peine de s'arrêter. Ça valait la peine qu'ils invitent Jésus à ce mariage, vous ne croyez pas? On a bien fait de venir dans la maison du Seigneur ce soir. On a bien fait. Soyons simples. Je ressens dans mon esprit que plusieurs d'entre nous ont besoin de faire silence. Je ne sais pas où vous en êtes de la musique, tout ça, de la télé, du bruit. Mais il est certain que l'ennemi utilisera le bruit, même la musique chrétienne, pour vous empêcher d'écouter sa voix. Seigneur notre Père, merci d'avoir consigné ces histoires dans le Saint-Livre. Tu demandes aux hommes de faire ce que tu leur demandes, qu'il en soit ainsi dans nos vies, Seigneur. Que nous ayons la grâce de faire ce que tu demandes à chacun. Tu nous vois, Seigneur, ce premier miracle. Nous te soupçonnons de vouloir le renouveler dans chacune de nos vies, de changer l'eau fade en saveur, de changer l'eau en vin. Merci, Seigneur, de nous rappeler que tu es le Dieu des miracles. Et si nous savons que le plus grand miracle, c'est notre conversion, c'est d'avoir ouvert les yeux sur le calvaire, c'est d'avoir réalisé que toi, le Seigneur Jésus, tu es le Dieu Tout-Puissant, si c'est vraiment le plus grand des plus grands miracles, nous savons que si tu nous as donné ta vie, à combien plus forte raison, tu nous donneras le reste. Alors Seigneur, apprends-nous à remplir nos vies, à remplir nos vases de ta sainte parole, afin que ce miracle ait lieu. Garde-nous, Seigneur, que nous soyons ces chrétiens utiles qui pourront apporter le vin nouveau dans la vie de tous ces gens qui ont soif. Oui, donne-nous d'apporter la joie aux autres. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.